Et nous en sommes au deuxième chapitre, à la halakha, si je ne me trompe, hé, n'est-ce pas? Ça m'est difficile de savoir, étant donné que je n'ai pas le texte devant les yeux, mais, non, mais tu en as besoin. Comment tu vas faire, sans le texte, si tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, c'est ça. Mais non, on va pas vous déranger. Bon, tant pis, on va le faire quand même. Donc, on a fait, je crois, la halakha. Ah non, on était au milieu de la halakha d'Alet, n'est-ce pas? Vous rappelez, il y a une description dans la halakha d'Alet du comportement de celui qui fait teshuva. Et on a vu qu'il y a des phénomènes, parfois, qui sont un peu surprenants, mais qui sont, disons, quasiment inhérents à la teshuva. Midarei teshuva, il est dans les comportements de la teshuva, liot hashav tzorek tamid lifnei Hashem ivru v'tachanunim. Que celui qui fait teshuva crie toujours devant Dieu, en pleurant et en suppliant. Alors, je pense que, bon, ça se comprend. Ce n'est pas d'ailleurs indispensable. La teshuva est achevée à partir du moment où un homme a pris la décision. C'est-à-dire, dès qu'il est, on a décidé de ne plus faire le mal et de faire le bien, la teshuva est accomplie. Il reste le devoir du vidouille. Donc, tout ce qui est amené ici dans la halakha d'Alet, c'est du supplément, c'est du rab. Alors, le rab, c'est qu'il faut pas s'étonner si on voit quelqu'un qui fait teshuva, il se lamente, il crie, et ce n'est pas obligatoire, mais c'est compréhensible. Et de plus, on avait rajouté, ve'ose tzedaka kefi kocho, il fait de la tzedaka autant qu'il le peut. Et ça, vous rappelez qu'on avait expliqué également quel est le rapport entre la teshuva et la tzedaka. A priori, ce sont deux choses différentes. Faire teshuva, une transformation de la volonté. Faire tzedaka, c'est donner à l'autre. Mais en fait, il y a un rapport direct, après ce qu'on avait vu, là je reprends très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que faire un péché, c'est en fait penser à soi plus qu'à l'autre. Dans ce cas précis, l'autre, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand on fait de la tzedaka, on fait le contraire de ce que fait le péché. On donne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a intuitivement, chez ceux qui font teshuva, un désir plus fort de faire de la tzedaka. C'est-à-dire, on commence à s'intéresser à l'autre. Umitrachek arbe minadavar shechatabo, et il s'éloigne beaucoup de la chose dans laquelle il a péché. C'est-à-dire, on avait vu qu'il y a des phénomènes parfois extrémistes dans le comportement des Baal et Teshuva qui consistent à faire des barrières qui ne sont pas obligatoires du point de vue de la halakha, mais qui sont nécessaires étant donné l'arrière-plan psychologique du Baal Teshuva. Donc il va faire des barrières ou méchané shemo, et il arrive également qu'il change de nom. Alors, rien qu'hier, j'ai reçu un coup de téléphone. Une dame me téléphone, elle me dit, voilà, mon fils qui a eu un traumatisme psychologique très grave veut changer de nom, est-ce qu'il le peut? Je lui dis, c'est très bien qu'il change de nom, au contraire, ça va lui permettre justement de se reconstruire. Et donc, parfois on change de nom. Parfois c'est le cas de quelqu'un qui se convertit au judaïsme, on lui recommande de trouver un nom juif. J'ai entendu parler d'un converti en Angleterre qui a voulu choisir un nom juif et donc il s'est fait appeler Rubinstein. Rubinstein, parce qu'il voulait un nom juif. Et donc, il s'est dit, les juifs, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Rubinstein, parfois, donc il a changé de nom comme ça. Voilà, bon, ne vous étonnez pas. Donc il change de nom. Klomar ani acher, comme s'il voulait dire, je suis un autre. Veini oto aish asa otam a ma'asim. Je ne suis plus cette personne qui a fait ces choses-là. Ce qui est d'ailleurs faux. Il est cette personne qui a fait ces choses-là. Simplement, il exprime, en changeant son nom, la volonté de ne pas avoir été cet homme-là. D'accord? Mais il l'est. C'est-à-dire que la teshuva, comme on avait vu dans le premier chapitre, n'efface pas l'antérieur, mais donne un autre sens à l'antérieur. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait le mal, mais que ce mal l'a amené à faire teshuva, donc rétroactivement, ce mal n'est plus un mal. Oui?
Qu'est-ce qui permettrait d'effacer totalement
C'est très mauvais d'effacer entièrement. C'est-à-dire, effacer entièrement, c'est pessimiste. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le premier chapitre. Tu étais au cours du premier chapitre? Oui, alors on avait expliqué que dans la vision pessimiste, alors on dit, l'homme du passé n'est pas réparable. On est obligé de créer un nouvel homme. Donc c'est une vision pessimiste. Tandis que si je dis que la Teshuvah rétroactivement donne un sens à ce qui s'est passé, donc ce n'est plus du mal. Oui, d'accord, mais c'est très bien. C'est très bien justement de se dire le mal que j'ai fait m'a amené à ça. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est là qu'on s'était arrêté. Alors, puisque c'est là qu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va continuer. Non, on va pas reprendre, on va continuer. D'accord ? Umeshane ma'asav kulam letova. Il change l'ensemble de ses actions, toutes, en bien. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait teshuvah sur une chose entraîne tout un processus, tout un engrenage qui fait que finalement, on va améliorer tous ses comportements. D'accord ? Bon. Ul derech yeshara est dans un droit chemin. Vegole mimekomo. Il s'exile de son lieu. C'est-à-dire souvent, bon, c'est ce qui va arriver. Je fais teshuvah, donc je suis tout à fait un nouvel homme, donc j'habite ailleurs. Ça arrive. Chez Galout, mechaperet avon, parce que l'exil expie le péché. Pourquoi est-ce que l'exil expie le péché ?
C'est la punition.
C'est une punition ? Une capara, oui. Pourquoi c'est une capara ? Il n'y a pas écrit que c'est une punition. Il y a écrit que ça expie. Donc tu dis que c'est vrai, c'est une capara. Mais pourquoi ça fait une capara ?
Parce qu'on est éloigné de Dieu. C'est une punition.
Alors c'est une punition, mais on avait dit que c'était pas une punition, que c'était une expiation. Donc c'est alors que j'ai corrigé ton ami qui a dit que c'était une punition et que je lui ai dit que c'était pas vrai. Maintenant tu reprends son erreur.
Hein. Tu fais que tu vas endurer cette expiation, alors ça va te permettre d'accéder à.
Mais c'est quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'endure en m'exilant ?
L'exil.
Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans l'exil ?
Le fait d'être détaché de.
Alors le Rambam va vous le dire tout de suite pourquoi. Mibne chez Goremetlo, Leikana, Veliot Anna, vous chalrouar. Parce que ça l'entraîne à se soumettre, à être humble et modeste. C'est-à-dire. Quand je suis exilé, on ne me connaît pas. Hein? On est dans, là où on avait dit, depuis le début du cours, pour ceux qui étaient là pour écouter, dans le deuxième chapitre, à la fin de la quatrième halakha. C'est quand même pas difficile. Maintenant, depuis le début du cours, tu savais pas où est-ce qu'on est, il fallait le demander. Bon. D'accord. Bon, je reviens donc ici, après la réprimande grave, l'exil, c'est un état d'être dans lequel on ne me connaît pas. C'est-à-dire, quand j'habite là où tout le monde me connaît, bah, tout le monde me connaît. Donc, chacun est respecté dans sa société en fonction de ce qu'il est. S'il est rave, alors on va lui donner le respect dû à un rave. S'il est bienfaiteur, il sera honoré en tant que bienfaiteur. Et enfin, de toute façon, toute personne a son kavod, son respect. À partir du moment où il arrive dans un lieu où on ne le connaît pas, alors il y a une sorte d'humiliation dans le fait de ne pas être connu. D'accord ? C'est ça qu'il dit ici le Rambam. Quand on est exilé, alors on a perdu un peu de sa dignité. Et c'est ça qui fait l'expiation. Oui.
Et en quoi, du coup, c'est une expiation, dans le sens où une expiation, c'est de réparer le déséquilibre causé par la faute.
Oui. C'est-à-dire, la faute vient également d'un excès de sentiment de soi-même. C'est-à-dire une sorte d'orgueil. Et donc, dans l'exil, je perds cet orgueil. Donc, je ne fais plus le calcul de ma volonté, mais de la volonté de Dieu. C'est ça, donc, l'accapara de l'exil. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos ancêtres ont été des exilés pour réparer la faute de la vente de Yosef, etc. Donc, nos ancêtres sont des exilés. En hébreu, comment on dit des exilés ? Golim. C'est nos ancêtres, les Golim, étaient des exilés. Et c'est ça qui nous a appris, donc, à faire la capara. N'est-ce pas ? Bon. Pourquoi vous avez rigolé ? Bon. Donc voilà, ça c'était une description des comportements qui peuvent arriver à quelqu'un qui fait teshuva. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, maintenant, ça c'est, disons, du point de vue de ce qu'on appelle sourmera, éloigne-toi du mal. Mais il y a également Assez tov, fais le bien. C'est-à-dire, on commence d'abord par ce de quoi on s'éloigne, et après, vers quoi on va. Ça, c'est la halakha he. La halakha he est un peu complexe. Elle est faite de différents éléments. C'est pas si simple que ça. Veshev argadol lashav. C'est quelque chose de très louable pour celui qui fait teshuva. Sheitvade barabim veyodia peshav lahem. D'avouer en public et de révéler ses péchés. Ah bon? Allez, voilà, j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que tout le monde a besoin de le savoir? D'abord parce que il y a la honte. Alors, la honte, c'est très utile. Parce que la honte permet de faire la capara. Il y a des textes qui expliquent que la honte, c'est ça l'enfer. Le Gehinam, c'est la honte. Pourquoi? C'est quoi avoir honte? C'est quand il y a une inadéquation entre ce que je devrais être et ce que je suis. Et si par exemple on pouvait me dessiner, alors on dessinerait une certaine forme, ça c'est ce que je devrais être. Et après on fait un autre dessin, ça c'est ce que je suis, et on met l'un sur l'autre. Ah, on voit des différences. Là, il faut couper un peu, là, il faut remplir. C'est pas exactement la même chose. Cette souffrance, c'est ça la souffrance de la honte, ça brûle. C'est ça que le feu de l'enfer. C'est le fait de devoir réparer la différence entre l'idéal et la réalité. D'accord? Donc, le fait d'annoncer sa faute, ça crée un état de honte qui fait que ça expie mon péché. Oui. Comment savoir son moi idéal? C'est très difficile à savoir, mais il y a des choses qu'on peut savoir. Par exemple, ce qui est écrit dans la Torah. La Torah nous a donné des mitzvot. C'est pas mal, non? Donc, déjà, ça fait déjà un beau paquet de choses que je devrais faire ou que je ne fais pas. Et puis, il y a également la morale, les midot. Les midot aussi, c'est universel. Maintenant, il y a effectivement ce qui me concerne moi en tant que moi-même et pas en tant qu'un autre. Alors ça, on a toute la vie pour le savoir. C'est-à-dire, il y a les jeunes occidentaux partent en Inde se rechercher, se trouver leur moi, n'est-ce pas? Ça se fait beaucoup, par exemple, après le service militaire en Israël. Avant le premier semestre, on va d'abord un peu en Inde pour se ressourcer, pour se retrouver. Le problème, je suis pas contre, parfois on va à la yeshiva pour ça aussi. La yeshiva remplace l'Inde. Mais il y a un problème dans tout cela. Parce que savoir qui je suis, je le saurai véritablement à l'âge de 93 ans, parfois à 87 ans, si on est vraiment très précoce. C'est-à-dire, c'est la vie qui va me révéler qui je suis. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon de temps en temps de prendre une certaine retraite pour remettre un peu les pendules à zéro. Mais l'absolu n'est pas accessible. C'est-à-dire, c'est en vivant que l'on apprend qui on est. D'accord? Oui?
Pourquoi les l'âge de 93 et 97 ans?
Ah, simplement pour vous faire peur. Okay. D'accord? Pour exagérer. D'accord? Ben non, je suis pas contre 78 ans. Aussi, ça peut aussi marcher. D'accord? Bon. Maintenant, on peut faire de la psychanalyse, essayer de savoir qu'est-ce que représente dans mon inconscient les chiffres 97, etc. Je pense que c'est assez inutile. Bon, donc je reviens ici donc ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des difficultés à savoir véritablement qui on est, mais on l'apprend par à coup. Donc ce que dit ici le Rambam, Veshev argadol hashav sheitvadeh barabim veyodia peshav lahem. C'est c'est très louable de révéler ses péchés en public. Umegale averot shebeno leven havero la'acherim. Il révèle les péchés qu'il a fait envers son prochain aux autres. Ve'omer lahem et leur dit: Omnam hatati lifloni. Il est vrai que j'ai péché envers un tel. Ve'asiti lo karvechar. Je lui ai fait telle et telle chose. Vareni ayom shav. Umitnachem. Et aujourd'hui, je reviens de ce que j'ai fait et je le regrette. Maintenant, remarquez que le Rambam parle des péchés qu'on a fait envers son prochain. En effet, si par exemple je suis l'ennemi de quelqu'un, que je lui fais du mal, injustement, alors tout le monde pense que si je fais du mal à un tel, c'est qu'il le mérite, et que moi je suis un tzaddique. Mais, donc il faut également réparer en disant non, c'est moi qui suis coupable et pas mon prochain. Deuxièmement, il y a aussi autre chose, c'est que quand je dis, quand je fais du mal à mon prochain, et que les gens voient que je réussis, alors ils se disent, ils voient que, au contraire, je ne réussis pas. Par exemple, la Hashgacha, la Providence, a voulu me punir de faire du mal à mon prochain, mais tout le monde pense que je suis tzaddik. Alors, il est bon de leur dire, non, vous savez pourquoi ça m'arrive? Parce que j'ai fait ça et ça à un tel. D'accord? Ce qui répare donc l'opinion qu'on a de la Hashgacha. Mais tout celui qui par orgueil ne le révèle pas. Et la mechase peshav, mais il cache ses péchés. En teshuvato gemura, cette teshuva n'est pas complète. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, mechase peshav lo yatzliach. Celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Bamed varim amurim. Alors maintenant, le Rambam va nous donner une restriction à ce qu'il a dit. Be'averot sheben adam lachavero. C'est vrai pour les fautes qu'il y a entre l'homme et son prochain. Aval, ba'averot sheben adam lamakom. Mais pour les péchés qui sont entre lui et Dieu. Et no tsarich lefarsem atzmo. Il ne doit pas révéler ces choses-là. Pardon, il dit voilà, en cachette, j'ai mangé du cochon. Non, tu n'as pas à le dire. Ve'azut panim hilo imgilam. C'est de l'effronterie s'il le révèle. Et là, shav lifnei ha'el baruchu, il doit seulement faire teshuva devant Dieu, ou foret hata'av lefanav, et détailler ses péchés devant lui, ou mitvade alehem lifnei rabim stam. Mais quand il fait son vidouille devant le public, il le dit sans détailler. Il dit, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne vais pas vous le dire. Vetova hilo shelondgala avono, c'est un bienfait pour lui que son péché n'est pas révélé. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ashre nesui pesha kesui hata, heureux est celui dont le péché est enlevé et dont la faute est recouverte. Alors vous avez ici une petite étoile, n'est-ce pas? Une astérisque. Vous avez vu? Hein? Ça nous renvoie où? Ça nous envoie à la note du Ra'avad. Vous voyez, il y a écrit en bas, Asagat Ra'avad. Le Ra'avad, c'est Rabbi Avraham ben David de Poskier. Poskier, c'est l'ancien nom d'une ville de France qui s'appelle aujourd'hui Béziers. Béziers, l'équipe de foot. Hein? Bon, voilà. Alors, le Ra'avad est en fait du Languedoc, c'est de là-bas qu'il est, et il a des notes sur le Rambam. Alors, voici sa note ici. Vechen ha'averot ha'mefursamot ha'megulot afalpi she'enam imchavero. De même, les péchés connus, bien qu'ils ne sont pas contre son prochain. Shekmo shenit parsem achet, car autant s'est révélé la faute, car tzarich lefarsem ha'teshuva v'itba'esh barabim. Donc il doit également publier sa teshuva pour avoir honte en public. De quoi s'agit-il? Par exemple, si quelqu'un a pratiqué, has v'shalom, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est entre l'homme et son prochain ou entre l'homme et Dieu? Entre l'homme et Dieu. Donc si on va selon le texte littéral du Rambam, quelqu'un qui a pratiqué l'idolâtrie n'a pas à le dire. À moins que, dit le Ra'avad, ce soit une chose connue. Tout le monde sait qu'il a pratiqué l'idolâtrie. Donc, le fait de le savoir, que ce soit publié, une chose notoire, comme on dit en français, fait que ça devient en fait ben adam la chavero, entre l'homme et son prochain. Donc, il doit dire, j'ai fait teshuva, je ne suis plus idolâtre. Oui.
Pourquoi
Est-ce que la personne, le frère, qui a fait du mal, il doit être présent dans le...
Non. 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 Bon. Donc, ça, c'est pour ce qui est louable de révéler ses péchés. Alors maintenant, nous avons ici une halakha d'actualité dans notre calendrier. Halakha vav. Afalpi, bien que, chez Teshuva v'atzeaka yafa le'olam, que la Teshuva est, oh, c'est d'Araba, Abdurrahmi. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, shakol yavod. C'est réparateur. Donc, bien que la teshuva et l'invocation sont toujours une bonne chose, les olam, ça veut dire toujours, ba'asara yamim sheben rosh hashana v'yom ha-kippurim yafa biyoter. Elle est encore plus efficace, la teshuva, entre Rosh Hashanah, dans les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Combien de jours il y a entre Rosh Hashanah et Kippour? C'est ce que dit le Rabban. Le Rabban dit qu'il y en a 10. Est-ce qu'il a raison? Il y en a 7. 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Kippour. Si vous enlevez ça de 10, il vous en reste 7. D'accord? Bon. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ici les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? Alors, on peut dire que c'est une manière de parler en hébreu. Entre, ça veut dire c'est ce qui ressort de tout ça. Mais il y a une interprétation intéressante. Ah, Arshavra Katamaklit. Ah. Absada, absada. Il y a une interprétation intéressante des kabbalistes. Vous savez que pour les kabbalistes, là, il y a trois moments de Teshuva qui sont Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabba. Non. Non, Hoshana Rabba, c'est pas le 8e jour après Sukkot. En tout cas, donc, vous avez donc 3 moments qui sont Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabba. Et dans le prophète Ézéchiel, le jour de Kippour est appelé Rosh Hashanah. Et donc le jour de Kippour, c'est le vrai. Quel est le jour qui va être appelé Kippour? Hoshana Rabba. Combien de jours y a-t-il entre Kippour et Hoshana Rabba? Il y en a 10. Donc pour les kabbalistes, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ce sont les 10 jours entre Kippour et Hoshana Rabba. Ce n'est pas selon l'interprétation du Rambam, donc ça rentre pas ici. Dans... Oui. Mais non, ce qui est supposé, c'est que tout le monde sait, puisque personne n'a posé la question, que tout le monde sait quand est-ce que tombe Hoshana Rabba. D'accord? Puisque personne n'a posé la question.
Quand on dit qu'il y a la série qui met, tu vois, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est la même chose qu'entre Kippour et Hoshana Rabba.
Non.
Qu'est-ce qu'on appelle la septième fois? C'est quoi les jours de Tchouva? Est-ce que je dois considérer que c'est les 10 jours?
Alors, si tu vas selon le Pshat, ce sont les jours de Rosh Hashanah à Kippour. Si tu vas selon les Kabbalistes, ce sont les 10 jours entre Kippour et Hoshana Rabba.
C'est quoi leur raison? Parce que la raison de Rosh Hashanah à Kippour, c'est que Rosh Hashanah, justement, c'est...
Quand est-ce que c'est Hoshana Rabba?
C'est
quoi?
Hoshana Rabba?
Oui, c'est quoi Hoshana Rabba?
Je pourrais te donner la question.
Ah, très bien, mais parce que personne n'a posé la question. D'accord, la réponse, cette question aurait dû être posée depuis longtemps dans le cours, c'est le 7e jour de Sukkot. Et ce n'est pas après Sukkot, c'est le 7e jour de Sukkot. Donc, il y a ici 2 choses à réparer, ce n'est pas le 8e mais le 7e, ni pas après Sukkot, mais de Sukkot. D'accord? Ah, c'est tellement simple de poser la question. Bon, je reviens donc. Pourquoi est-ce que les kabbalistes disent qu'il y a un temps de supplémentaire de teshuva?
Est-ce que c'est considéré comme la même teshuva?
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a des slichot à Hoshana Rabba. D'accord? Il y a des slichot à Hoshana Rabba. La raison de cela, peut-être qu'on en parlera plus tard. D'accord? Pour l'instant, on est dans le Rambam. Non, ça nous amènerait trop loin. D'accord? Bon. Là, pour l'instant, on en est aux 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour. Le Rambam nous dit, c'est un temps propice à la Teshuvah. Bon, d'accord, pourquoi? Il dit, chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Dirshu Hashem Beimatseo, demandez Dieu lorsqu'il est présent. Ça veut donc dire qu'il y a un temps où il y a une plus grande présence, comme si Dieu avait été plus présent ou moins présent. Ça veut dire qu'il est présent à nous. Pour nous, de notre point de vue, il y a une plus grande présence, une plus grande facilité à accéder à la Teshuvah. Mais pourquoi? Alors là, ça demande un certain approfondissement. D'abord, vous savez très bien que toutes les fêtes de la Torah commémorent des événements qui se sont passés quand? Dans la Torah. Un événement ne se passe pas dans la Torah. Un événement se passe dans le temps, dans l'histoire, oui? Qui concerne le peuple d'Israël. Vous avez eu un cours là-dessus? Hier soir, très bien. Donc vous avez compris que le jour de Rosh Hashanah, c'est un événement qui est arrivé au peuple d'Israël. Quel événement? C'est arrivé à Israël, ça? Si vous avez eu un cours du Rav Akerman, il a dû certainement vous dire. J'ai rien compris. Pourquoi est-ce que tu es tellement en désaccord avec Rabbi Yehoshua? Rabbi Yehoshua dit que le monde a été créé en Nissan. Et donc l'homme a été créé en homme, a été créé en Nissan. Il y a une autre version. Mais est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yehoshua ne savait pas pourquoi il faisait Rosh Hashanah? Rabbi Yehoshua, le jour de Rosh Hashanah, il faisait la fête comme tout le monde.
Ben,
ça c'est vrai selon Rabbi Eliezer, mais c'est pas vrai selon Rabbi Yehoshua. Or, dans la Gemara, il y a une controverse pour savoir quand est-ce que le monde a été créé, donc l'homme créé. Est-ce qu'il a été créé en Tishrei ou est-ce qu'il a été créé en Nissan? Donc on ne peut pas faire dépendre la raison d'une fête de quelque chose qui est controversé entre les sages d'Israël. Donc c'est pas la vraie raison de Rosh Hashanah, bon flanc.
Dans ces cas-là, on devrait également fêter Rosh Hashanah le jour où Rosh Hashanah.
Très bonne question, mais ça c'est quand on arrivera à Nissan qu'on posera la question. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, la raison pour laquelle nous faisons une fête à Rosh Hashanah. D'accord? Or, nous faisons une fête à Rosh Hashanah, une fête on fait toujours à cause d'un événement qui s'est passé dans l'histoire nationale d'Israël. Et c'est relaté dans la Torah. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah? La création de l'homme. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec Rabbi Eliezer et que tu n'es pas d'accord avec Rabbi Yehoshua. Mais Rabbi Yehoshua, qui lui dit que l'homme a été créé en Nissan, il faisait la fête de Rosh Hashanah. Donc c'est pas la bonne raison. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, d'accord.
C'est Yom
Hadin. Yom Hadin. Quoi? Pourquoi c'est le Yom Hadin justement? C'est ça le problème. Oui, quoi?
J'aurais dit Matan Torah, mais c'est Yom Kippour Matan Torah.
Alors, tu aurais pu dire également que c'est le jour de la destruction du temple, la destruction de Tisha B'Av. Tu aurais pu dire que c'est le jour de la victoire des Hashmonaïm, mais c'était à Hanouka. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? N'essayez pas d'esquiver, bon flanc. La Akedat Yitzhak, c'est pas si évident que ça. Certaines sources disent que ça s'est passé à Kippour.
C'est 10 jours avant que le Moshe redescende avec le deuxième.
Oui, d'accord. Mais, et la veille de Rosh Hashanah, c'était 11 jours avant. Hein? Reta Egel, le 17 Tammuz, donc le 17 Tammuz ne tombe jamais à Rosh Hashanah. Hein? La fin de la création de la terre. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Pourquoi tu es si agressif envers Rabbi Yehoshua, qui lui dit que ça s'est fait en Nissan?
C'est une fête universelle, plus que les autres fêtes. C'est une fête.
Pourquoi dans toutes les prières, y compris de Rosh Hashanah, on dit Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte? Donc c'est un événement qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, qui s'est passé à Rosh Hashanah. Eh bien, c'est très simple. Comment?
La sortie d'Égypte?
Non, la sortie d'Égypte, c'était à Nissan. On est sorti d'Égypte. Mais dans les événements de la sortie d'Égypte, il s'est passé quelque chose à Rosh Hashanah.
La naissance de Moshe Rabbeinu.
La naissance de Moshe Rabbeinu. Donc tu dis que le 7 Adar tombe à Rosh Hashanah. Très bien. Il suffit pour cela de lire la Gemara. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit qu'à Rosh Hashanah, nos ancêtres ont cessé de travailler en Égypte. Oui, en Égypte. En Égypte. L'esclavage a cessé. C'est-à-dire, c'est vrai que nous ne sommes sortis effectivement d'Égypte qu'à Pessah. D'accord? À ce qu'on a fait pendant 6 mois et demi, on a fait la Dolce Vita, c'est-à-dire que l'Égypte est devenue un lieu où les Juifs émancipés pouvaient vivre de manière paisible. Et donc ils se disaient, mais c'est de la folie d'aller dans le désert après Moïse, alors que maintenant tout va bien en Égypte. Non, parce qu'ils n'ont rien. Ils sont sortis d'Égypte quand le pharaon les a laissés sortir. D'accord? C'est-à-dire, la fête de Pessah, c'est la fête de la fin de la domination politique du pharaon sur Israël. D'accord? Mais, à l'époque, nous étions encore des sujets du pharaon, mais nous ne étions plus esclaves. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est passé un moment dans l'histoire où il y a eu de la, disons, des lumières chez les Égyptiens. Ils ont accepté d'arrêter l'esclavage. Et donc, les Juifs ont commencé à prospérer en Égypte. Ce qui vous explique pourquoi la majorité n'est pas sortie d'après le Midrash. C'est-à-dire qu'avant toute Géoula, il y a toujours un moment d'émancipation. Et donc, il y a la tentation de cette émancipation. D'accord ? C'est intéressant de voir s'il n'y aurait pas d'autres événements similaires dans l'histoire. En tout cas... oui, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, pour l'instant, je suis simplement au point quel est l'événement. Et ça, d'après la Gemara, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont d'accord. Ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est la fête de Rosh Hashanah ? C'est le jour de la liberté. La fête de la liberté chez les Juifs, c'est Rosh Hashanah. Deuxième question. Qu'est-ce que on fête à Kippour ? Le don de la Torah.
C'est Shavuot.
Shavuot, la Torah a été donnée.
Si on suit l'autre avis, c'est la Torah.
L'autre avis.
Non, je sais qu'il y a une histoire avec le don de la Torah et le
Kippour. Oui.
C'est le jour où nous avons reçu la Torah. La Torah a été donnée à Shavuot, elle n'a été reçue qu'à Kippour. Effectivement, les paroles entendues au Sinaï n'ont pas été transmises à Moshe sur des tables jusqu'à ce qu'il monte. Il descend avec les tables de la loi le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui a cassé les tables de la loi ? C'est notre version à nous du vase de Soissons. Donc, Moshe brise l'étape de la loi, il fait la prière pendant 40 jours au pied de la montagne, après il remonte pour 40 jours pour recevoir les nouvelles tables, il les amène à Kippour. C'est-à-dire, le jour où nous avons reçu la Torah, c'est Kippour. Donc, Rosh Hashanah, c'est le jour de la liberté, et Kippour, le jour de la Torah. D'accord ? C'est plus clair maintenant. Bon, maintenant, si c'est vrai ce que je vous dis, et c'est vrai, quel est le problème ?
Je pensais
Yom HaKippourim. Oui, Yom HaKippourim. C'est le jour qui nous sauve. C'est le sauve Kippour. Et donc, c'est le problème de savoir quoi qu'il y a.
Entre
quoi et quoi ?
Rosh Hashanah, c'est cessation de l'esclavage.
Oui.
Kippour, don de la Torah, en gros, ces deux jours sont porteurs de
c'est ça que c'est exactement ça que j'essaie de voir. Tout d'abord, il y a ici un problème. À Rosh Hashanah, on fait des prières pour bénir l'année. Quelle année ? La nouvelle année. À Kippour, on fait Teshuvah et l'expiation des péchés de l'année précédente. Donc, moi j'aurais mis ça, j'aurais mis Kippour au dernier jour de l'année, et après on commence Rosh Hashanah. Mais là, vous avez 10 jours qui sont la fin de l'année précédente et qui sont le début de l'année qui commence. Alors, à quelle année ils appartiennent ces jours-là ? À aucune des deux. Donc ce sont des jours qui sont en dehors de l'année. Ils sont au-dessus du temps. N'est-ce pas ? Maintenant, comment cela s'explique-t-il ? L'événement de Rosh Hashanah, qui est la libération de l'esclavage, et l'événement de Kippour, qui est de recevoir la Torah. Combien de temps s'est passé entre les deux événements ?
7.
Un an et 10 jours. Ben oui. Puisque l'esclavage a cessé à Rosh Hashanah, on est sorti d'Égypte à Pessah, on a entendu la Torah à Shavuot, on a reçu les tables de la loi à Kippour. Donc, 1 an et 10 jours après le premier événement. Donc, si Rosh Hashanah, c'est en souvenir du premier des événements, et le jour de Kippour, le dernier des événements, donc on comprend que Rosh Hashanah bénit l'année qui commence et que Kippour, c'est l'année qui est passée. Donc vous avez ici 10 jours qui n'appartiennent à rien. Combien de jours y a-t-il dans une année? Comment? Ça dépend de quoi? Combien de jours il y a dans le dans une année? Bon flanc, c'est pas difficile. Hein? 365 jours. C'est-à-dire que tu es un ami du soleil et que tu n'aimes pas la lune. L'année lunaire, elle dure combien de temps? 355. Et le mot Shana, qui veut dire une année en hébreu, c'est combien en Gematria? 355. Donc l'année, c'est 355 jours. Simplement, on rajoute 10 jours pour réparer l'écart entre l'année lunaire et l'année solaire. Donc, vous avez ici 10 jours qui sont à la tête de l'année, Rosh Hashanah, qui sont au-dessus de l'année. C'est aussi pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Kippour est appelé Rosh Hashanah. D'accord? Donc, si on est au-dessus du temps, ça veut dire qu'on est capable de réparer le passé. Nous avons une machine à remonter le temps. Cette machine à remonter le temps s'appelle la Teshuvah. Vous connaissez cette particularité grammaticale de l'hébreu, le vavaipour?
Le vavaipour?
Conversif. Conversif. Ah oui. Vous savez ce que c'est? C'est un vav qui fait que le passé devient du futur, ou le futur devient du passé. D'accord? Vayomer. Yomer. C'est, il dira, vayomer, il a dit. D'accord? Ça veut dire que c'est une particularité de la langue hébraïque de considérer que le passé et le présent sont, le passé et le futur sont interchangeables. Ce qui vient de cette conception de la teshuva, justement, cette capacité de prendre un événement du passé et de le réparer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces 10 jours-là. Maintenant, pourquoi ces 10 jours-là sont à ce moment-là, ça c'est encore autre chose. Mais avant d'y arriver, quel est le jour de l'année où on sonne du shofar? Il y a à ce propos une controverse entre les religieux et les chilonim. Si vous demandez à un religieux quand est-ce qu'on sonne du shofar, il vous répondra Rosh Hashanah. Si vous demandez à un chiloni commun en Israël quand est-ce qu'on sonne du shofar, il vous dira à Kippour. C'est-à-dire que tout le monde se presse pour éviter les embouteillages pour pouvoir arriver à la fin de Kippour à la sonnerie du shofar. D'accord? C'est-à-dire, et quand vous dites à un chiloni, vous savez, on sonne du shofar à Rosh Hashanah aussi? D'accord? Maintenant, qui c'est qui a raison? Les datiyim ou les chilonim? Pour le savoir, il faut lire la Torah. Quel est le jour où la Torah dit de sonner du shofar? Hein? Rosh Hashanah. Montre-moi un verset de la Torah qui le dit, tu ne trouveras pas. Yom Teruah, jour 2, retentissement, sonnerie. Mais il n'est pas dit que ça se fait avec un shofar. Ça peut être avec une trompette, ça peut être avec la voix. D'accord? Tu vois, j'ai fait une sonnerie sans passer par le shofar. D'ailleurs, le shofar est un mauvais conducteur, comme tout le monde le sait. Et donc, la Torah ne dit pas qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Oui? Non. Non plus. Il y a écrit, donc, pour Rosh Hashanah, écrit, Utkatem bachatzotzerot, vous sonnerez des trompettes. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est dit dans la Torah qu'on sonne du shofar? À Kippour du Yovel. Une fois tous les 50 ans, alors la Torah donne la mitzvah de sonner du shofar le jour de Kippour. Comment? On le fait, non, alors ça on le fait en souvenir d'eux. C'est-à-dire la sonnerie qui se fait à la fin de Kippour, c'est quand Kippour est déjà sorti. On sonne du shofar en souvenir du shofar du Yovel. Mais le vrai shofar, c'est le shofar de Kippour. Qu'est-ce que c'est que l'année du Yovel, le jubilé? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, Birkat HaRamas, c'est tous les 28 ans. Hein? Ça, c'est tous les 7 ans. Qu'est-ce qui se passe tous les 50 ans?
Hein? La remise des dettes totales.
Ça, c'est tous les 7 ans, oui? Les terres sont restituées, et puis et on libère les esclaves. C'est-à-dire, on cesse l'hypothèque sur les terres et l'hypothèque sur les personnes. C'est-à-dire qu'on devient libre. Maintenant, donc, le chauffard, originellement, c'est un chauffard de liberté. Tiens donc, alors pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Où est-ce que les Chachamim ont été chercher tout ça, qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Ils l'ont appris de Kippour. C'est en Gzera Shava, effectivement, parce que quand la Torah dit, le pour Kippour, elle dit « Bachodesh Hashevi » lors du septième mois, et qu'elle dit également « Bachodesh Hashevi Yom Teruah » pour Rosh Hashanah, de là on a fait une Gzera Shava pour nous dire « ça, si ça c'est avec du chauffard, ça aussi avec le chauffard ». Donc l'origine du chauffard de Rosh Hashanah, c'est le chauffard de Kippour. Donc qui a raison, les Chilonim ou les Datim? C'est les Chilonim qui ont raison, évidemment. Bon, maintenant... Ça a été dit tout à l'heure. Il y a déjà eu cette proposition, j'ai répondu à ça. Maintenant, donc, vous avez le chauffard, aussi bien Rosh Hashanah qu'à Kippour, et dans les deux cas, il s'agit donc de la liberté. Maintenant, c'est quoi le péché? Le péché! Un péché. Une avera. Une transgression. Le Rav Kook nous explique dans Rota Tshuva très longuement que le péché est une forme de servitude. C'est-à-dire, je suis asservi par le Yetzer Hara. Il m'emprisonne. Et donc, faire teshuva, c'est quoi?
Se libérer.
Ça veut donc dire qu'on ne peut faire teshuva que si l'on est vraiment libre. Donc, vous avez compris pourquoi les deux jours qui entourent les 10 jours de teshuva sont des jours de liberté. Maintenant, vous avez un texte de la Gemara dans Rosh Hashanah qui pose la question suivante. Que font les esclaves lors de l'année du Yovel, entre Rosh Hashanah et Kippour? Puisque, on a dit, la sonnerie du chauffard à Kippour libère les esclaves. Mais qu'est-ce qu'ils font entre Rosh Hashanah et Kippour?
Ils peuvent choisir de se faire poinçonner l'oreille ou pas?
Et s'ils se poinçonnent pas l'oreille? Non, de toute façon, même ceux qui sont poinçonnés sont obligés pour le Yovel de sortir. Oui.
Ils sont libres.
Alors ils sont libres, alors pourquoi est-ce qu'ils attendent la sonnerie du chauffard de Kippour? La Guémara dit autre chose, oui?
Pourquoi se prendre l'oreille?
Ça n'a rien à voir, laisse tomber. D'accord? Non, c'est un rapport, mais c'était une remarque en dehors, du coup. Ouais, bon. Donc, la Guémara répond que ils ne rentrent pas chez eux, mais ne sont pas asservis. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant 10 jours? Ils font des festins avec des couronnes sur leur tête. Tiens donc. Donc, ils ont 10 jours de festin, de Rosh Hashanah à Kippour, avec une couronne sur la tête. Maintenant, qui c'est qui paye? Le maître. C'est le maître des esclaves qui va leur payer des repas pendant 10 jours, pendant lesquels ils ne font rien. D'accord? Maintenant, avant Rosh Hashanah, ils sont pas libres, puisqu'ils sont esclaves. Après Kippour, ils ne sont pas vraiment libres. Parce qu'une fois qu'on est libéré, il faut gagner sa vie. Donc ils vont travailler. Donc ces 10 jours sont les seuls 10 jours où ils sont véritablement libres. C'est la liberté totale. D'accord? Maintenant ça s'explique. Ce sont les 10 jours où on fait Teshuva. C'est les jours de la liberté. Quelqu'un m'a demandé, j'étais en Khutz Laaretz, j'étais en Inde il y a un mois, il y a un goy qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour vaincre le Yetzer Hara. Je lui ai répondu en ayant la certitude qu'on est libre. Si on sait qu'on est libre, qu'on n'est pas prêt à renoncer à sa liberté, le Yetzer Hara n'a pas de prise. Et donc, ça explique un peu donc tout ce que dit le Rambam sur ces 10 jours-là. Maintenant, pourquoi ces 10 jours-là sont à ce moment-là du calendrier? C'est parce que c'est le temps de l'automne. Oui, c'est là que commence l'automne. Vous connaissez l'automne? C'est le moment où la nature disparaît. C'est-à-dire, au printemps, tout fleurit. Il y a une puissance de vie qui se manifeste au printemps, qui arrive à son sommet en été, et puis arrive l'automne. Ça disparaît. Ça disparaît pas vraiment. Ça ne disparaît que pour mieux renaître au printemps qui va revenir. Mais c'est le moment où il y a une tendance à renoncer à ce monde. Le Olam Hazeh devient moins intéressant. C'est l'époque où nos frères Ashkenaz lisent le livre de Kohelet, dans lequel il est dit « Hevel havalim, akol havel »« Tout est vanité ». D'accord ? C'est là que, parce que c'est le temps donc où il y a une aptitude au niveau, disons, de l'atmosphère générale à revenir à sa source. Donc c'est le temps propice à la teshuvah, c'est ce que dit le Rambam. Oui ? Hevel, vanité. C'est quelque chose qui est en vain. Ça veut dire un souffle. Hevel. D'accord ?
Et l'automne en hébreu,
pardon ? En hébreu, ça se dit, en hébreu moderne, hein, stav. Stav. Samer tav vav. C'est une erreur de l'hébreu moderne. Mais en hébreu moderne, on dit stav. D'accord ? Bon. Parce que le mot stav dans la Torah, dans le Tanakh, veut dire l'hiver. Veut dire l'hiver. Comment ? Choref, c'est en hébreu moderne.
Pour l'hiver.
Quoi ? En hébreu moderne, l'hiver se dit choref et l'automne se dit stav, ce qui est une double erreur, parce que dans la Bible, le mot stav veut dire le temps de la pluie, et choref veut dire ce qui vient vite, c'est-à-dire le début de la germination. D'accord ? Mais peu importe, nous parlons de l'hébreu moderne, parlons pas de l'hébreu ancien. Bon. D'ailleurs, le mot stav, qui veut dire l'automne, apparaît une seule fois dans le Tanakh, dans le livre de Shir HaShirim, et ça vient de l'araméen sitva, qui veut dire le temps de la pluie. Mais bon, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est vraiment trop. Maintenant, donc je reviens à cette histoire. Donc, il y a un temps où on peut dire l'agriculture, le monde biologique fait teshuva. C'est pour ça que vous avez dans certains marzorim, ancien, il est écrit Nahagu la asot teshuva be'aseret yeme teshuva. On a l'habitude de faire teshuva pendant les 10 jours de teshuva. C'est-à-dire, les 10 jours de teshuva sont appelés 10 jours de teshuva, pas parce qu'on fait teshuva.
Nikraim banim.